crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous regardons ensemble une célèbre toile du peintre Casimir Malevitch. Il s'agit du carré blanc sur fond blanc, de 78,7 cm sur 78,7 cm, et c'est important, on y reviendra dans l'émission. Il a été réalisé en 1918 et est conservé au Musée d'Art Moderne de New York.
Je sens autour de moi le désert. Perdu dans la jungle, je n'ai trouvé qu'une route vers le salut. C'est ce que tu vois et admires ici. Ce carré blanc sur fond blanc, ce sont mes œuvres les plus récentes, mon idéal.
En 1915, le grand artiste russe d'origine polonaise, Malevitch, accroche dans l'angle sous le plafond, en vol libre, dit-il, le quadrilatère noir. Il s'exclame alors dans son style inimitable « La surface plan est vivante, elle est née, le carré est un nouveau-né, majestueux » et il ajoutera un peu plus tard « À la première page du nouveau livre des lois, nous plaçons le plan sous la forme du carré, ce plan cache les nouvelles pages de l'avenir, où qu'il soit accroché, il ne perdra pas sa face ». Au printemps 1918, dans un moment de très grande exaltation, Malevitch peint le carré blanc. Vaincu par le système suprématiste, dit-il, le bleu du ciel était troué, et il pénètre effectivement dans l'incolore, véritable représentation de l'infini. On verra ensemble s'il y a une relation entre cette idée de peindre en blanc et de peindre avec la lumière. Le rapport avec le carré noir initial se retrouve dans les dimensions identiques de l'œuvre, mais cette fois-ci, le quadrilatère n'est pas présenté parallèlement au bord de la toile, mais en bascule, légèrement incliné vers le bord droit du tableau, l'angle supérieur gauche, frôlant le bord supérieur du tableau. Le carré et la surface qui l'entoure sont réalisés avec des touches et un grain et un rythme très différents quand on est à l'intérieur ou à l'extérieur de la surface. Les deux parties sont excitées d'une façon différente. Ça a été peint extraordinairement soigneusement et ce tableau, évidemment, est un des symboles de l'invention de l'abstraction. Nous allons pouvoir en parler ensemble, mais je voudrais d'abord vous dire un petit mot de, ou vous rappeler ce que dit Stravinsky en 1922, Stravinsky qui est le fondateur de l'unisme. Le fondement de l'art russe nouveau, ce sont les œuvres de Malevitch, un artiste d'une dimension colossale, géant qui déterminera la destinée de l'art durant tout ce siècle. Là, ajoute-t-il, où à peine engagé sur la voie, Picasso a renoncé et s'est mis à reculer, Malevitch a poursuivi, pour atteindre enfin la seule issue possible à l'époque, le suprématisme. Voilà, c'est ce dont nous allons parler ensemble dans quelques instants. Je reçois pour en parler deux artistes, deux frères, les frères Florian et Michael Kistreber. Et je suis ravi de vous recevoir. Vous vivez entre Amsterdam et Paris, la région parisienne, pourrait-on dire. Et votre travail s'exprime dans plusieurs médiums. Parfois de la lumière, parfois des films, parfois de la peinture, avec un travail qui semble faire souvent allusion à une partie mystérieuse de l'histoire de la peinture et d'une peinture liée, curieusement, à l'occultisme, sans que l'on sache très bien si c'est par esprit de sérieux ou par esprit d'ironie ou par une simple ambiguïté qui vous intéresse comme ambiguïté, mais on y reviendra tout à l'heure. Je reçois également, et j'en suis très heureux, mon ami Bernard Blisten, le directeur du Musée National d'Art Moderne au Centre Pompidou. Est-ce qu'il faut rappeler votre carrière ? Je ne crois pas, je me souviendrai simplement de deux expositions qui ont été formidables, et il y en a eu beaucoup d'autres dans ce que vous avez fait. Pour moi, l'exposition que vous aviez faite à Marseille, Poésure et Peinterie, a été un très très grand moment. J'ai adoré également...
Vous évoquez l'époque, la mode, la morale, la passion.
Phrase de Baudelaire.
L'exposition collective que nous avions conçue avec Alfred Pacman, Catherine David... et Christine Van Arsch.
Je suis très heureux que vous soyez ensemble, surtout que vous avez fait ensemble, les deux frères Cuistrebert, Bernard Blisten et Pascal Rousseau, une intervention commune lors du nouveau festival au Centre Pompidou. Ça s'appelait « Les mystères de l'Ouest ». C'est un très beau titre d'ailleurs.
J'avais invité Pascal Rousseau, pour qui j'ai amitié et respect. Et Pascal Rousseau m'a proposé, à partir d'un fragment d'un épisode des Mystères de l'Ouest, James West, d'inviter certains artistes et de poser là les bases de sujets qui le préoccupent, dont entre autres, bien évidemment, des relations qui existent entre la modernité et l'occultisme. Et parmi les artistes qu'il avait invités, il y avait effectivement Florian et Michael.
C'est très intéressant de parler de Pascal Rousseau parce que Florian et Michael Cuistrebert sont nominés au prix Marcel Duchamp et Pascal Rousseau va être, je crois, le rapporteur, celui qui va présenter votre travail à ce jury complexe qui vous permettra peut-être d'être lauréat du prix Marcel Duchamp. Je voudrais vous interroger tout d'abord l'un et l'autre, Michael peut-être, est-ce que nous avons choisi de regarder attentivement ce carré blanc entouré de blanc? On n'ose pas dire sur fond blanc parce que l'expression même a été contestée. Est-ce que vous observez parfois le travail de Malevitch? Est-ce que ce travail extraordinairement novateur à l'époque, fondateur d'une nouvelle idée de l'abstraction et d'une nouvelle idée de la spiritualité peut-être aussi, a une actualité pour des artistes aujourd'hui?
Je pense qu'il a, il doit avoir sûrement une actualité. En tout cas, il a des répercussions. Et ce qu'il a ouvert en 18 ou 19... Je pense que c'est assez universel pour que ça se répercute encore maintenant. Et l'idée de rendre visible quelque chose d'invisible ou d'aller au plus pur ou au plus... C'est un problème ou une sorte de topic qu'on a, Florent et moi, parfois, et beaucoup, je pense beaucoup d'autres artistes maintenant. Bien qu'il y ait eu entre-temps beaucoup de contradictions et de choses qui sont intervenues depuis l'époque, et on ne peut pas faire l'économie non plus.
Bernard Blisten, Malevitch, les artistes d'aujourd'hui et l'aujourd'hui.
C'est une œuvre absolument fondamentale, mais ce qui est absolument, je crois, essentiel aujourd'hui, c'est qu'on découvre combien, ou on redécouvre combien elle est prise dans le tourment de l'histoire. Comment entre l'utopie, telle qu'elle se développe après le cubisme, dans les années 1914-1915, l'œuvre de Malevitch croise l'histoire de la Révolution russe, combien elle y adhère et combien en même temps elle se confronte après à la régression du stalinisme. Et je crois que dans une époque comme la nôtre, où la question même... de l'engagement de l'artiste, ou la question même politique est certainement une question absolument cruciale. Je crois que cette œuvre conjugue de manière absolument déterminante un ensemble de questions sur lesquelles on revient toujours.
Alors les questions sur lesquelles on revient, c'est forcément, vous parlez, Bernard Blisten, très justement, de la question de l'engagement de l'artiste. Il y a une part d'utopie très puissante dans la pensée de Malevitch. Il y a une part, on en parlait certainement, d'une sorte de vision étrangement spirituelle, mais aussi un engagement pour une transformation de l'humain. Et il s'est confronté à cette sorte de violence qui a fait que son travail a été s'est transformé très rapidement. Le carré blanc n'a pas pu être représenté. Il n'a pu faire que 7 tableaux, je crois, en tout, de cette façon-là, avec cette peinture blanche. Et ça n'est... on en connaît encore 5. 2 ont disparu. Et le tableau est parti très rapidement en dehors de Russie, où il ne pouvait plus, de toute façon, être montré. Donc, on a affaire, effectivement, à un sens politique. Est-ce que... un sens politique aussi. C'est pas un sens politique seulement, c'est un sens politique aussi. Florian Cuistrebert, est-ce que c'est un domaine, est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans votre travail aujourd'hui?
Dimension politique, je dirais pas réellement. Je pense qu'on s'occupe plus de la matière peinture dans notre activité.
Est-ce que dans le travail que vous faites, on va parler on va reparler très précisément de ce tableau suprématiste et des autres tableaux de Malevitch, mais est-ce que dans ce travail que vous faites, il n'y a pas une sorte de ruine de l'idéal?
Ah si, oui, oui, oui.
Est-ce
oui,
que vous pourriez le définir un petit peu?
C'est oui, ruine de l'idéal. On s'y est, on va dire progressivement attaqué depuis quelques années en faisant des portraits du Chrysler Building dégoulinant, par exemple. C'est vraiment, oui, confronté à une dynamique de l'élan progressiste avec une décrépitude, la décrépitude des idéaux. Il y avait ça quand même qui était très sous-tendu et qui l'est encore, de toute façon, dans notre peinture, assez visuellement, quoi. Ouais.
Michael,
ouais, moi, je dirais que c'est pas directement politique. Enfin, notre approche, en tout cas, elle n'est pas directement politique, mais je pense qu'on peut peindre politiquement. On n'aborde pas des sujets politiques. Je pense que en tout cas chez Malevitch, aussi le fait de peindre ça, c'était peindre politiquement. C'était pas peindre sur ou avec la politique. C'est un acte, comme on peut être ironique par politique ou et précisément notre pratique ou sur cette histoire d'idéal, c'est pas forcément une critique qu'on fait. Enfin, loin de là, on n'est pas là pour donner une conclusion. On met juste en relation des choses qui ont été tout le temps opposées, ou ce qu'on essaye de faire en tout cas.
C'est-à-dire,
il n'y a pas forcément de choses précises, mais par exemple entre la matière, tout ce qui est de l'ordre de l'aptique et qu'on peut traiter de façon optique ou le contraire.
Donc et pour que nos auditeurs comprennent, dans votre travail, il y a des lumières qui donnent l'impression d'être des matières, mais qui sont en fait des enlèvements ou des décolorations de la matière. Mmh. Il y a des contradictions entre des croûtes faites avec différents matériaux et de la lumière qui est incluse à l'intérieur. Il y a une opposition curieuse entre l'abstrait et la géométrie. Dans certains de vos films, par exemple, on a l'impression que vous filmez des atomes en train de s'organiser à l'intérieur de s'organiser, des neutrons, des protons, etc., en train de s'organiser, et tout d'un coup, lorsqu'on l'image se transforme, on se rend compte que ce sont des derviches tourneurs, et donc on ne sait plus quelle est la relation entre l'image, le microcosme et le macrocosme. C'est des relations très contradictoires, qui sont parfois purement géométriques et décoratives, et qui parfois donnent l'impression d'être très engagées dans une sorte de réflexion plastique d'un autre ordre. Bernard Plissel, vous vouliez intervenir?
Je voulais tout simplement rappeler que tout acte de la vie est un acte politique et que, de fait, il faut dépasser, je dirais, l'immédiate interprétation qu'on peut faire du mot pour simplement souligner que, justement, l'œuvre de Malevitch, comme vous-même le disiez tout à l'heure, nous confronte à deux interprétations, je dis bien interprétations, foncièrement contradictoires, puisque l'une est d'ordre spirituel, iconique, et que l'autre est d'ordre matérialiste. Ce sont d'ailleurs ces deux débats qui n'en finissent pas de nourrir l'interprétation même de l'œuvre de Malevitch. Et quelque part, j'en dirais de même quant au travail de Florian et de Michael, puisqu'on est là face à l'interrogation sur les contraires. Il ne s'agit pas nécessairement de les faire fusionner, mais il s'agit à un moment donné d'opposer ou de dépasser évidemment les clivages sur lesquels on appréhendait les lectures de l'histoire de l'art. Et c'est là où Malevitch est évidemment un artiste absolument crucial, essentiel, et c'est là où je pense que des artistes d'aujourd'hui, évidemment, ont encore à trouver une matière et une réflexion.
Bernard Blissen, est-ce que vous trouvez, vous avez été témoin de cela, Malevitch.
Pas de Malevitch. Hein.
Non, je sais que vous êtes beaucoup plus jeune que cela. Mais Malevitch a été une redécouverte. Au fond, il me semble que Malevitch avait été oublié dans l'histoire de l'art récente, ou peu regardé. Je me souviens d'un très joli livre sur l'histoire de l'art abstrait qu'avait fait Dora Valier au tout début des années, fin des années 60, début des années 70, où elle mentionnait Malevitch. C'était presque une interrogation pour nous tous. Et il y a eu cette grande exposition Malevitch qui a été faite au Centre Pompidou. Je pense qu'elle devait être vers 78 ou 79, quelque chose comme ça. Et ça a été une redécouverte. Est-ce qu'effectivement, il avait été oublié? Comment diriez-vous les choses?
Il avait été oublié chez nous, certes.
Négligé en France, dans l'histoire de l'art française plutôt ou...
ça va sans dire, de la même manière que que Duchamp était aussi considéré comme une figure à la marge. C'est formidable que de considérer qu'il y a si peu de temps, les artistes à partir desquels nous pensons le présent et peut-être le futur ont été si longtemps ignorés. Mais ils n'avaient pas été ignorés pour tout le monde. Il suffisait d'être un peu curieux et étudiant et d'aller au Stedelijk Museum d'Amsterdam pour voir un ensemble absolument exceptionnel d'œuvres de Malevitch, de la même manière qu'il fallait aller à La Haye pour voir un ensemble de Mondrian. Mais c'est vrai que les tout premiers Malevitch sont entrés dans les collections du Musée national d'art moderne grâce à Pontus Hultaine au tournant des années 70-80, à l'ouverture du Centre Pompidou. Et c'est vrai que les architectones qui sont dans les années 20 un moment crucial du développement de l'œuvre dans l'espace public.
Alors les architectones, ce sont des architectures pensées par Malevitch, des architectures abstraites, pas forcément destinées à être réalisées, mais qui donnaient la sensation de déploiement de formes géométriques dans l'espace.
Oui, parce que Malevitch a eu très tôt une volonté de transmission. Il a participé, comme la plupart des artistes qui se retrouvent au cœur de la révolution russe, de la révolution d'octobre, il a participé pleinement à travers différents cours, différents enseignements, au grand débat des idées. Il ne faut pas oublier qu'il s'est opposé à Chagall, par trop réaliste, disait-il, mais qu'il a ouvert la voie à des artistes qui, de Tatlin à Rodchenko, à quantité d'autres, ont été évidemment ceux qui ont prophétisé en quelque sorte le monde moderne. Mais de tout cela, nous ne parlions pas véritablement dans la France de la fin des années 70. Il a fallu les travaux de Camille Agré, il a fallu les travaux de Jean-Claude Marcadet, il a fallu les travaux de André Inakov, il a fallu une galerie, la galerie de Jean Chauvelin.
Où, tout à fait.
Au tournant
des... Place Furstenberg.
Assurément, pour que nous puissions entrevoir, à Paris en tout cas, quel avait été le projet de cet artiste. Et comme vous le disiez, c'est la croix noire de Malevitch est entrée dans les collections du Musée national d'art moderne au début des années 80, comme deux autres œuvres plus tardive de ce moment si controversé, si difficile à comprendre, si difficile à interpréter, où Malevitch retourne à la figuration, figuration d'abord allusive, puis ensuite figuration plus réaliste, de telle sorte que certaines personnes vont à dire que soit il n'avait plus à dire ce qu'il avait dit avec le suprématisme, soit qu'il avait été contraint par le système idéologique à revenir à une œuvre de caractère plus narratif.
Michael Cuistrebert, vous regardez avec votre frère Florian d'autres artistes de cette période-là. Est-ce qu'il y a... Il me semble avoir vu des références à Feininger,
exactement,
à des artistes de l'idéal aussi. De la lumière, de la transparence.
Peut-être un peu moins radicaux, mais dans la période, on a beaucoup eu d'intérêt pour Lionel Feininger, pour El Lisinski, pour Hans Richter, enfin, c'est moins des artistes, ils sont moins radicaux que Malevitch. On s'est plus intéressé, en gros, à des gens qui étaient beaucoup moins radicaux, en fait. Mais par exemple, Feininger, c'était plus pour un côté qui mélangeait et structure et vapeur, par exemple, des choses comme ça. Hans Richter, c'est pour ces films qui nous ont complètement renversés. Et dans ces deux, par exemple, et Feininger et Richter, ce qui nous intéresse le plus, c'est le côté sombre qu'il y a et le côté presque occulte, sans vraiment y pénétrer, parce que bon, c'est quand même très codifié tout ça, l'occultisme. Mais il y a, pas en surface, mais en vapeur ou en atmosphère, il y a quelque chose qui est plus obscur en tout cas.
Alors écoutons pendant quelques instants un texte de Malevitch dans lequel la question de la lumière, de la vapeur et de la transparence est suggérée.
Vaincu par le système suprématiste, le bleu du ciel a été troué et a pénétré dans le blanc. Véritable représentation de l'infini et de ce fait affranchi du fond céleste en couleur. À son premier stade, le suprématisme possède un mouvement purement philosophique et instructif qui passe par la couleur. À son second stade, il est la forme qui peut être appliquée, constituant alors le nouveau style d'ornement suprématiste. Mais il peut aussi influer sur les objets en tant que transformation ou incarnation de l'espace en eux et écarter de la conscience l'intégrité de l'objet. Grâce à la pensée philosophique de la couleur suprématiste, il est apparu que la volonté pourra révéler un système créateur quand l'objet, en tant qu'ossature picturale, en tant que moyen, sera annulé chez le peintre. J'ai percé l'abat-jour bleu des restrictions des couleurs. J'ai débouché dans le blanc. Camarades aviateurs, voguez à ma suite dans l'abîme, car j'ai érigé les sémaphores du suprématisme. J'ai vaincu la doublure bleue du ciel, je l'ai arrachée. J'ai placé la couleur à l'intérieur de la poche ainsi formée et j'ai fait un nœud, vogué devant nous, s'étend l'abîme blanc et libre.
Bernard Blistel, nous avons entendu ce texte très halluciné de Malevitch. Vous entendez cela comme... Je me souviens de critiques qu'on faisait à la lecture de ces textes et finalement, en les entendant, je ressens, je crois, autre chose. À un moment donné, on dit mais c'est une sorte de philosophie très lourde, poum poum, etc. Comment est-ce que vous ressentez, vous, ces textes?
Quel beau texte. Je crois qu'il faut peut-être le placer dans le mouvement des idées. Je crois qu'il faut rappeler que Malevitch... était grand lecteur d'Ouspensky, fameux Tertium Organum, qui a nourri les idées et l'imaginaire des artistes de cette époque. Je crois qu'il faut rappeler la relation à de grandes figures de la littérature et de la poésie russe de cette époque. Nous sommes au temps de Maïakovski, nous sommes au temps de Meyerhold. Et la pensée de Malevitch a d'emblée des victoires sur le soleil. La pensée de Malevitch a d'emblée voulu à la fois revendiquer une dimension expérimentale, je crois que c'est quelque chose d'absolument essentiel dans la création, et dépasser justement les frontières de la même manière qu'un Duchamp a voulu finalement au même moment sortir du cadre, au propre comme au figuré. Malevitch a lui-même tenter de sortir à la fois du cadre et de dépasser les conventions même de l'exposition. Donc tout cela est absolument extraordinaire, puisque tout cela ouvre une voie absolument polysémique, polyphonique à la modernité. Qu'après les interprétations aient été, je dirais, contradictoires, c'est sans doute le propre de toutes les grandes œuvres, d'être livré à 1000 interprétations. Mais il y a là, évidemment, comme une perspective, au propre comme au figuré d'ailleurs, qui est absolument nécessaire.
Florian Kistrebert, quand on entend ce texte où on perce l'écran bleu du ciel pour parvenir au blanc de l'infini, on comprend que l'écran bleu du ciel, c'est aussi la structure matérielle du monde et qu'on parvient à un monde lumineux dans lequel, il le dira plus tard d'ailleurs, les idées deviennent des objets totalement libres et que peindre ne sera peut-être même plus nécessaire. Il y a un moment où il va abandonner, dit-il, le pinceau ébouriffé pour la plume acérée parce que l'œuvre va devenir si absolument conceptuel qu'il en est là. Vous-même, dans votre travail, Michael et Florian Kistrebert, cette relation à la dématérialisation totale de l'œuvre, à l'écriture aussi peut-être, ce sont des choses qui sont importantes.
dématérialisation par l'écriture, non, c'est pas c'est pas un moyen qu'on utilise l'écriture après le dialogue forcément entre nous pour faire avancer, concevoir, trouver des nouvelles idées et puis c'est surtout manuel aussi quoi. C'est surtout manuel, c'est
le travail, le fait de travailler à deux, pardon, de vous interroger sur une ce qui pourrait paraître une banalité. J'ai souvent eu l'impression, lorsque vous mettiez en évidence dans les couvertures de vos catalogues Frère Cuistrebert, que ce mot frère avait un double sens et que c'était un frère au sens du grand jeu, si je puis dire, les frères PH comme ça, une sorte de fraternité spirituelle plus importante presque que celle du sang. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez dire ou est-ce que ça vous choque que j'en parle comme cela?
C'est pas choquant, mais en tout cas...
Michael Cuistrebert.
C'est pas choquant, non, c'est l'idée d'être frère, c'est plutôt... Enfin, l'idée d'être deux, déjà, c'est plutôt de faire de la peinture à deux. Faire de la peinture à deux, c'est intéressant parce qu'on peut traiter des émotions qui pourraient être vraiment individuelles, voire romantiques, mais à deux. C'est-à-dire qu'on les dédramatise.
C'est vous dédramatiser, ce que vous voulez dire, c'est que vous dédramatisez les questions de l'ego et de la subjectivité.
Exactement. Et après, l'idée de la confrérie, ça rajoute beaucoup de pittoresque. Et on en est bien conscient. Mais après tout ça, nous, ce qu'on on a a priori et avant toute chose, une envie commune de faire de la peinture. Et on n'a pas une envie commune de conceptualiser ou d'arriver à une sorte de peinture sans peinture. C'est pas...
Et pourtant...
Bernard Bisten.
Et pourtant, à regarder votre travail, la finalité n'est peut-être pas uniquement, pardon d'être non pas en contradiction, mais pour simplement le regarder, l'objet tableau. Bien. Il y a certes initialement dans votre travail une réflexion sur la peinture, une réflexion évidente sur ses contradictions, sur sa matérialité, mais il y a aussi d'emblée d'autres perspectives. Il y a peut-être aussi que Malevitch était à un moment iconique et qu'on est aujourd'hui à un moment où, au-delà de l'icône, on pense en termes d'image. Je parlais tout à l'heure de la spiritualité de Malevitch, de la dimension même propre à ses sources, l'icône russe.
Mais...
Vous êtes évidemment, de fait, et c'est ce que Florian disait tout à l'heure, dans le dépassement de cette réalité-là. Oserais-je dire que vous êtes dans un temps postmoderne, avec toutes les difficultés qu'on peut avoir à employer ce mot, alors que Malevitch était évidemment dans un temps où l'idée même du moderne prenait, là encore de manière métaphorique, son envol.
Tout à fait, c'est très intéressant, mais je serais curieux d'avoir votre réaction d'ailleurs sur ce que vient de dire Bernard Blisten, Florian Cuistrebert. Vous êtes à une époque postmoderne, disait-il, ce qui veut dire que vous avez à votre disposition un extraordinaire vocabulaire fabriqué par les modernes, justement, et que vous allez le transformer pour l'amener ailleurs. Est-ce que vous puisez dans cette histoire? Comment est-ce qu'on travaille avec ces outils-là?
Comment est-ce qu'on travaille avec ces outils modernes? Je pense que c'était, formidable matériau, en tout cas pour développer notre peinture et pour la dépasser à maintes reprises, celle-là encore. Hein, mais bien sûr, on va toujours piocher chez l'un ou l'autre. Enfin, on le fait moins peut-être chez les modernes maintenant, mais ça reste quand même. Présent, très présent dans notre travail en tant que source.
Il y a une association que je voulais faire, peut-être. Dans votre travail, vous utilisez la lumière, la géométrie, parfois la matière extraordinairement travaillée. On ne sait pas toujours, quand on regarde ce tableau de Malevitch, le carré blanc entouré de blanc, on ne sait pas toujours que, évidemment, les projections de lumière qui avaient lieu déjà dans l'opéra sur le soleil, La Victoire sur le soleil, ce fameux opéra que Malevitch fit avec Krouchnik et Matyushin en 1913, et dans lequel il y avait des projections de lumière sur les toiles blanches, et que le premier cinéma tellement important dans l'histoire de l'avant-garde russe et ses projections de pure lumière sur le tableau avaient de l'importance pour lui, et que beaucoup moins qu'un tableau blanc, il s'agit d'un tableau de lumière. Et c'est quelque chose qui vous intéresse comme utopie, un tableau de lumière.
Enfin oui, comme utopie, comme matériau quoi. La lumière, c'est aborder la lumière ou l'immatérialité par quelque chose de physique, par une composition géométrique ou par ou tout simplement par un jeu d'ombre. Ce sont différents moyens qu'on a utilisés justement pour attraper. Pour rendre cette lumière, en tout cas, ou utiliser une lumière réelle, je veux dire.
Mais la lumière, Florian Christrebert, elle avait à cette époque-là, évidemment, un sens métaphorique d'une culture moins laïque que la nôtre.
Oui, oui.
Qu'est-ce que c'est que cette lumière dans un monde plus laïque, plus profane, comme aujourd'hui, Michael Christrebert?
C'est une façon d'être à côté et de... Comme on le disait tout à l'heure, il y a des sujets qui changent pas, je pense, malgré l'agression du temps, les agressions des mouvements et tout ça. Il y a des choses qui changent pas, dont cette idée de la lumière. Sauf que nous, c'est plus un moyen en fait, c'est pas un but. C'est plus un moyen d'être à côté, en fait, et de ne pas répondre à ce qu'on nous demande aujourd'hui, en fait. Et quand, par exemple, sur les idées aussi de reprendre ou de se servir de la palette des modernistes, ce qu'on abordait tout à l'heure, je voulais repréciser un truc aussi, un point important pour nous, c'est par exemple... C'est pas pour nous quelque chose de on n'est pas fasciné par ces choses-là, on les prend comme des outils. Et par exemple, un tableau ou une vidéo, surtout une vidéo, où on servira beaucoup d'art optique, pour nous, c'est un outil qui va rendre les gens dans un état second, par exemple. Et cet état second va, pourquoi pas, nous faire accéder à une sorte d'au-delà de la peinture.
Bernard Blisten.
Ce que je trouve important et intéressant dans ce qui est dit là, c'est que on voit que certains artistes d'aujourd'hui vous conduisent à relire l'approche que nous avions probablement par trop limitée de la modernité. En écoutant parler Florian ou Michael, je pense peut-être certes à Malevitch, mais je pense aussi à tout ce que je n'ai pas su comprendre à un moment donné, de la complexité de l'œuvre de Kupka, de l'œuvre de Molinodj, de l'œuvre de Rodchenko. Et c'est contre cette linéarité du récit que, je crois, tout à l'heure, Florian exprimait en parlant de cet effondrement même qu'ils ont figuré dans certains de leurs tableaux, qu'ils m'incitent à travailler. Je veux dire par là que pendant trop longtemps, on a réduit l'expérience esthétique de la peinture au XXe siècle à la forme tableau. Or, les plus grands artisans de la modernité ont toujours considéré que l'expérience artistique les conduisait justement au-delà même de cette finalité. Et je crois que leur travail, que j'aime, est un travail qui m'engage à ça, c'est-à-dire qui m'engage à me confronter à la complexité des choses. Et je ne crois pas qu'un carré blanc sur fond blanc soit une œuvre simple. Je crois que c'est une introduction à l'extrême complexité, oserais-je dire, du regardeur, puisque c'est le titre aussi de votre émission, et à l'extrême complexité d'un enjeu esthétique.
Moi, je suis très sensible à ce que vous dites, Bernard Blisten, parce que...
J'espère bien.
Pour une fois. Et parce qu'effectivement, quand vous associez cette idée de la complexité et à l'œuvre des frères Christrebert et, pour d'autres raisons, à celle de Malevitch, Vous justifiez, me semble-t-il, totalement la passion qui nous conduit et qui fait que nous sommes totalement dans une zone de compréhension qui ne peut pas être épuisée par une interprétation monosémique. On est véritablement dans une totalité de contradictions, même dans la position, qu'elle soit spirituelle ou politique, de Malevitch, qui est profonde. Et lorsque vous parlez de la complexité, même de ce tableau que nous regardons plus particulièrement, quand on voit qu'il y a des zones sous lesquelles il y a probablement du sable ou de la sciure, qu'il a appelé, qu'il a demandé à deux fabricants d'utiliser, il a choisi deux peintures pour faire les deux parties du tableau, l'une qui est les peintures Lefranc, une autre qui est un fabricant de peintures russe, et c'est très extraordinaire la façon dont il est allé loin pour dissocier les parties, pour montrer comment une excitation pouvait avoir lieu sur cette surface qui était à la fois une excitation optique ou haptique, puisque vous en parliez comme ceci tout à l'heure, Michael Kestrebert, ou bien pour dire que ce ne sont pas des couleurs, mais ce sont la somme de toutes les couleurs, donc c'est plutôt de la lumière. On sent qu'il y a une façon évidemment d'affirmer de façon quasiment prophétique, avec un ton, quasiment prophétique, ce que veut faire l'artiste, mais également de tâtonner simultanément. Il y a, au fond, et j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus, quelque chose qui est à la fois très affirmatif et aussi de la non-maîtrise. Est-ce qu'on peut être à la fois dans ces deux côtés-là, Florian Cuisrebert?
Oui, certainement. Oui. Je pense qu'en tout cas, l'expérience de peindre, ça ne réside pas seulement dans l'image qui va être rendue, forcément. Et enfin, c'est une histoire de sensations et de mélange de matériaux, comme vous le disiez. Sur le carré blanc, il y a du sable, il y a de la sciure, il y a des différentes tonalités de blanc, et je pense qu'il y a Il y a deux niveaux de regard, ou voire plus, voire en tout cas d'approche, voire plus sur une peinture. C'est son côté, oui, optique, et l'autre beaucoup plus matériel et physique et tactile. Voilà. Et
Bernard Blisten.
Somme toute, il y a l'idée d'une activation de la pensée. Il y a finalement deux formes simples dissociées l'une de l'autre, deux carrés. Cette évidence d'une recherche dynamique, mais cette recherche dynamique contenue à l'intérieur de la toile, à ce moment en tout cas de son travail, elle est pour moi, comme elle est d'ailleurs chez Duchamp à peu près au même moment, la volonté d'une activation de la pensée. Et ça, c'est absolument gigantesque, puisqu'on est au-delà même de ce qui est figuré dans la construction, même... d'un véritable langage de l'art.
Devant l'œuvre, comment ne pas être immédiatement frappé par la différence des deux blancs? L'un froid est très légèrement bleuté pour le carré, l'autre chaud et un peu ocre pour le fond. Ainsi, le carré blanc, qui n'est pas plus carré que les autres quatre-angles, se détache résolument du fond sur lequel il apparaît. Incliné dans une position dynamique, accentuée par l'inégalité des distances de chacun de ses angles aux quatre bords du tableau. Et il se détache d'autant mieux qu'il est cerné de tous côtés par un trait de crayon qui désigne la forme comme telle, et par un petit espace non peint, ses yeux vides qu'il articule au fond. Si tant est que l'on puisse ici encore parler de fond. Le fond en est-il toujours un quand il ne passe pas sous la forme? Ne serait-il pas plutôt un cadre peint autour de la forme? La pâte picturale grasse et généreuse conserve la trace d'une manière énergique.
Thank you. quel rapport entre Michael Kistrober, quel rapport ou quel est l'espoir que l'on peut avoir qu'une œuvre transforme la réalité des choses?
Peut-être sur la peinture, il faudrait qu'il y ait des éléments qui perturbent le regard. Voilà. Et après, si on regarde à côté, on voit le monde déformé. Il y a cela. Après, je...
Bernard Bissène parlait tout à l'heure de la sortie du cadre. Il disait Marcel Duchamp est sorti du cadre Malévitch. Il ne parlait pas du cadre formel.
Si on parle de peinture avec un cadre, ça, je pense qu'on n'en parle plus trop depuis longtemps.
Et non, que on ne parle pas de ce cadre-là, bien entendu.
Je pense qu'on est beaucoup d'artistes à faire la peinture étendue, c'est-à-dire qu'à déjà pas servir du médium peinture. Et après, comment la peinture change le monde aujourd'hui? Faut avoir plus de recul que ça pour pouvoir. Je peux pas le dire.
Changer le monde, je sais pas. C'est peut-être un peu exagéré.
On change plus le monde.
Mais je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Florian Kistrober? On peut avoir un effet sur les choses?
Sur le regardeur, oui. Je pense.
Est-ce que on arrive à sortir du terrain? C'est-à-dire, au fond, on a l'impression que l'histoire moderne s'est inventée à l'extérieur de ses propres marges, que c'est toujours par l'extérieur que l'art s'est nourri, par une sorte d'étendue du niveau de conscience, étendue des champs possibles d'intervention. Et est-ce qu'il y a encore une extériorité?
Est-ce qu'il y a encore une extériorité?
Je vous pose des questions dont je n'ai pas la réponse. Oui, c'est peut-être sûr, pas des bonnes questions, d'ailleurs, mais
je pense que. Ouais. Excusez-moi, mais le passé, par exemple, est une extériorité. Et le futur,
pardon,
le passé, l'histoire de l'art, c'était une extériorité. Ouais, et vrai. Le futur, c'est une projection, donc c'est aussi une extériorité. Donc si on se considère comme artiste actif dans une société, on est un peu entre les. Enfin, le point entre les deux. Et donc, il y a ça, comme on pourrait dire, déjà comme extériorité. Après, on est aussi très influencé en tant qu'artiste par tout ce qui est pas de l'art.
Et, oui. C'est la question de Marcel Duchamp, non pas celle peut-on faire une œuvre qui ne soit pas d'art, parce que c'est quand même une question intéressante, mais j'ai l'impression que, au fond, hors de l'art, il y a quand même une quantité de champs palpitants. Votre relation à la science fait partie, enfin, la musique, bien entendu.
Oui, bien sûr. Ouais. Dans notre cas, l'extériorité, on a été la chercher beaucoup dans la musique. Par exemple, on a souvent défendu l'idée que de la composition sur la conception, bien que ça soit une conception aussi. Le fait que ce qui nous intéresse, c'est d'aborder un médium par peut-être son contraire, ou jouer sur la temporalité, par exemple, du médium de musique et la spatialité de la peinture, en faisant des peintures musicales ou des choses comme ça, ou en se servant de la vidéo pour justement faire ce qu'on appelle de la visual music. Mais à partir du moment, en fait, où on prend une référence extérieure, en fait, on répond à ça.
Bernard Bissène, comment s'organise? Vous êtes directeur d'une des plus grandes collections du monde, mais c'est une collection qui a comme particularité de ne pas être du tout dissociée du contemporain. C'est-à-dire que au Centre Pompidou, non seulement vous avez une histoire à dire et à redire et à reformuler et à recomposer, je pense, assez régulièrement, mais en même temps, vous avez l'attention des artistes les plus contemporains. Comment se passe cet échange entre les artistes les plus contemporains avec lesquels vous travaillez, dans les ateliers desquels vous êtes, avec les conservateurs qui travaillent auprès de vous, et ce contenu historique? Est-ce que c'est un frein? Est-ce que c'est une accélération? Est-ce que c'est une aide? Est-ce que c'est une barrière?
C'est tout simplement une nécessité. Il faut lutter contre l'amnésie. Articuler une collection de cette importance entre moderne et contemporain, par-delà d'ailleurs le clivage des mots, c'est se livrer constamment à une interprétation même des œuvres. C'est construire justement ces va-et-vient. C'est solliciter peut-être davantage les artistes qu'on ne l'a fait jusqu'alors, et c'est une des idées simples au demeurant,
que je veux avoir, que de donner aux artistes la possibilité justement de, d'interpréter une collection, de lire une collection. Je crois que ce qui est fondamental, en fait, dans l'expérience même d'une collection de cette importance, c'est qu'elle permet de nous proposer une infinité de champs ouverts, de juxtapositions qui souvent pourraient paraître incongrues et qui, bien au contraire, ouvrent de nouvelles pistes. Bon, il est trop simple de dire qu'il n'y a pas une lecture univoque, il ne saurait y avoir une lecture univoque, plus encore à l'ère de la mondialisation, c'est-à-dire plus encore à l'ère où l'on comprend que les artistes s'emparent de formes et d'œuvres existantes pour les nourrir de leur propre regard. Voilà, c'est ça qui est évidemment en jeu. C'est, oserais-je dire que ça pense et que ça tourne.
Ça pense et ça tourne. Florian Kiss-Robert, vous êtes un regardeur d'œuvres modernes, vous le disiez tout à l'heure. Vous organisez une sorte d'étrange polysémie assez mystérieuse dans l'ensemble du travail que vous faites avec votre frère. Vous êtes un visiteur de musée, je suppose, aussi.
Oui, oui.
C'est quelque chose qui... Bernard Blisten en témoigne. Je sais que votre complicité vous conduit parfois dans les salles de quelques chefs-d'œuvre. Voilà. Quelle est la façon dont vous dissociez, par exemple, ou associez, je ne sais pas, l'histoire, dans l'histoire de cette modernité qui vous intéresse, ce monde mystérieux qui semble être... vous parliez tout à l'heure des œuvres d'inspiration occultiste ou qui sont liées à la chaîne de verre ou bien à ces idées d'architecture de cristal qui sont ces idées très symboliques. C'est curieux que vous soyez tourné vers cela qui, au fond, est une sorte de monde un petit peu très littéraire, très expressif, plutôt que vers des grands destructeurs. Michael Christobert.
Nous, on ne s'est pas tourné vers ça, c'est plutôt le contraire. En fait, quand on a découvert ça, on a pris les choses de manière très formelle. On est arrivé en 2009 à New York et on n'était pas du tout, on n'avait pas du tout le projet de s'intéresser à l'occultisme et tout ça. Et on a été assez happé et assez même imprégné par des éléments d'architecture, soit d'art déco, soit complètement avec des symboles maçonniques, occultistes et tout ça. Et ça a été un moment pour nous qui nous a amenés vers des formes qui parlent d'elles-mêmes. En fait, même si ce sont des formes symboliques, nous, on vient d'une peinture, enfin, on a commencé à faire de la peinture à l'huile très, très, très figurative. Et ce passage à New York, et c'est la découverte de ces formes, ces triangles, ces cercles, tout ça, nous a amené à l'abstraction qu'on fait maintenant. On n'a pas vraiment sur l'idée de la destruction et tout ça. C'est plus l'idée de la contradiction que la destruction qu'on met en avant. Elle a tout le temps été là. Elle l'a encore.
Mais la contradiction, ou simplement mettre en évidence que on réduisait la lecture de ce qui vous intéresse à des schémas par trop formalistes. Mmh. Il y a finalement dans votre travail, tel que je le comprends, la velléité de nous questionner sur la lecture par trop réductive que l'on a pu faire justement de cette histoire moderne. J'évoquais tout à l'heure Kupka, puisque je sais que vous vous y intéressez, comme Pascal Rousseau, bien sûr, s'y intéresse. Pendant fort longtemps, on a lu l'œuvre de Kupka à l'aune d'une évolution qui le conduisait vers l'abstraction, et le tour était en quelque sorte joué. Puis voilà qu'on comprend aujourd'hui son rapport à la science, cette extraordinaire curiosité. La curiosité, c'est aussi quelque chose d'absolument crucial dans le travail de l'art. Ouais. Et je crois que dans votre travail, en tout cas pour ce que
j'en connais, pour ce que je regarde, c'est cet appel-là qui, en quelque sorte, lui donne sa dimension, employant des grands mots, dystopique, justement, vous permet de faire un pas de côté.
Miguel Pustenbert. Nous, on n'a jamais, enfin, ça nous a presque souvent, enfin, moi en tout cas, souvent presque tout le temps trouvé absurde de dissocier la science et l'abstraction, par exemple. Une forme, pour moi, c'est quelque chose d'abstrait et de concret. Il n'y a pas d'opposition. C'est dystopique parce qu'on met pas, on sépare pas les choses, on les met pas sur des piédestals. On n'a pas abordé l'histoire de l'art, de manière classique ou. Elle est très intuitive, notre façon d'aborder la. Nos référents, par exemple, si on parle de Hans Richter,
inventeur du cinéma abstrait, pourrait-on dire, je pense, artiste lié à Dada et qui est probablement une des plus extraordinaires figures du cinéma expérimental des années 20.
Oui, et quelqu'un qui tente justement à la fin de son œuvre, Philippe Alain Michaud l'a montré dans une très belle exposition au Centre Pompidou. Metz, quelqu'un qui montre ou tente une relecture de l'histoire, justement, des avant-gardes historiques, qui tente par un jeu étonnant de montage extrêmement simple, de montage, hein, le montage étant des sens cinématographiques, hein, mais qui tente de justement montrer, d'exposer cette complexité. Et je comprends pleinement que Florian et Michael Kessreber s'intéressent profondément à l'œuvre de Hans Richter, à l'œuvre de Kupka, à l'œuvre de Raoul Hausmann, enfin, à l'œuvre de ces gens qui, je reprends la formule trop citée de Rimbaud, qui finalement inaugure la modernité, voulaient trafiquer l'inconnu pour trouver du nouveau.
Je crois que c'est une formule qui résume très bien les choses, mais qui est intéressante par rapport à la connaissance. Quand on pense à Malevitch, et quand vous disiez tout à l'heure, mais après tout, notre histoire de l'art est très subjective, nous avons des références qui sont, des curiosités comme ça qui sont là, celle de Malevitch aussi, mais elle était d'une gourmandise en même temps incroyable, parce que la somme de connaissances qu'il transmet dans ses livres, dans son enseignement, les textes qu'il fait sur Cézanne, sur Picasso, sur ses contemporains, la connaissance qu'il avait de la musique et de la poésie la plus expérimentale du moment, des premiers cinémas, au fond, l'artiste, souvent, et c'est votre cas, je crois, à vous deux, les frères Kestrebert, entraîne avec lui une masse de connaissances extraordinairement réorganisées par rapport à ce qu'est la connaissance académique, mais qui vous permet et qui nous permet, nous, en regardant ce que vous faites, d'avoir affaire à un savoir qui n'est pas celui que nous connaissons. En fait, je pense que vous nous apportez, je pense que Malevitch nous apporte et nous transmet quelque chose que nous ne connaissons pas, quelle que soit l'époque où on le regarde. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous regardez les autres artistes. La question qui est derrière tout cela, peut-être, c'est aussi comment cela se transmet. Est-ce que vous transmettez autrement que par votre travail? Est-ce que vous avez d'autres artistes avec lesquels vous collaborez? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose de collectif comme Malevitch pouvait l'avoir à Vitebsk quand il enseignait, ou par exemple?
Non, je pense qu'on collabore que. C'est pas ce que je pense, c'est certain, c'est qu'on travaille uniquement tous les deux, donc c'est vrai que. On a développé aucun travail collectif autrement qu'entre Michael et moi. Après, la façon dont on transmet les choses. Ce serait par la parole quand on parle de notre travail, comme on fait maintenant.
Par l'exposition.
Ou par l'exposition, évidemment. Ouais.
Mais vous confrontez votre travail avec l'un des plus grands historiens de l'art d'aujourd'hui, qui est Pascal Rousseau, dont on sait combien il est absolument fasciné par ces moments
de la science, de l'occultisme, de l'ésotérisme, pour une relecture, non pas parce qu'il veut faire tourner les tables, mais parce qu'il veut entreprendre et qu'il entreprend une relecture justement de la modernité à l'aune de ses formes. Et je crois que finalement, pas comme, mais d'une manière comparable à celle de Malevitch, qui confrontait ses idées à la pensée théorique de son temps, à des domaines différents, comme vous-même le faites avec la musique, je crois que les artistes sont de fait pleinement au nœud de ces échanges. Je peux supposer que la pensée de Pascal Rousseau a agi sur votre travail, comme en retour, vous avez certainement agi sur sa propre lecture et sa propre interprétation, j'allais dire divagation de l'histoire de l'art.
Michael Christobert, une dernière phrase.
Ouais, je voulais juste dire que la façon souvent dont on parle d'une référence, en fait, dans le cas par exemple de Hans Richter, nous on a découvert Hans Richter après avoir manipulé des ombres sur un mur et on s'est aperçu qu'il y avait quelqu'un qui avait fait la même chose avant. Et souvent c'est en trouvant des choses, parce qu'on expérimente beaucoup et qu'on n'a pas une culture académique, on n'a pas au préalable étudier l'histoire de l'art avant de prendre des pinceaux. Notre façon de dialoguer ou de même de découvrir ce qui a été fait, c'est en répétant les formes et les choses un petit peu décalées ou un petit peu mais bon, en tout cas il y a un noyau qui est comme ça.
Merci beaucoup Michael Christobert, merci beaucoup Florian Christobert de nous avoir éclairé sur cette complexité de la démarche de tous les artistes à travers la vôtre et à travers le regard que vous portiez sur l'avant-garde. Merci Bernard Blisten de nous avoir éclairé sur Malevitch et de la même façon de donner une sorte d'énergie à notre regard sur les œuvres pour contempler, je crois, de façon plus active le présent.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs, une émission en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons parlé du célèbre carré blanc sur fond blanc réalisé en 1918 par Casimir Malevitch, conservé au MoMA à New York. Vous avez pu entendre des musiques de Bernard Günther, Yannis Kyriakides et Andy Moore. Et vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. Attachée d'émission, Brigitte Masson. Lecture des textes, Lara Brulle. À la technique, Éric Boisset. Réalisation, Franck Lilin. Merci Franck. Les Regardeurs, une émission de Jean Deloisy et Sandra Adam.
Go to bed. Before you go back, go until you come, babe. Come until you come.